Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage et dirigent leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.
Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen.
Septembre 2021, le 11 du mois. À Toulouse, depuis l'église Saint-Nicolas, une cinquantaine de pèlerins s'apprêtent à s'élancer dans la ville sur les traces de Monsieur Saint-Jacques. Un pèlerinage d'un jour qui est organisé par le service diocésain des pèlerinages, en partenariat avec la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs et avec l'association des Amis du chemin de Compostelle, les mènera depuis l'église Saint-Nicolas, en passant par le pont de la Dorade et par l'Hôtel-Dieu, jusque sur le parvis de la basilique Saint-Sernin. À la recherche d'eux-mêmes, des autres, du tout autre. Premier pas d'une quête qui un jour, si Dieu le veut, les conduira jusqu'au tombeau de l'apôtre Jacques. Francine.
Je ne l'ai jamais fait. C'est un souhait, voilà, peut-être qui va se réaliser.
C'est peut-être un départ aujourd'hui.
Voilà, c'est peut-être un départ, oui, voilà. Donc on va avoir confiance et peut-être que je le ferai un jour.
Daniel, peut-être un départ, certainement même. Certainement un départ. Prochain, peut-être l'an prochain. Voilà, je partirai sur les chemins de Saint-Jacques.
Il y a quelque chose qui s'est passé ce matin ou bien c'était un projet que vous avez mûri
Un projet de très longue date. Voilà. Et maintenant que je suis à la retraite, je vais pouvoir le mettre en œuvre. Donc, je vais pouvoir partir cheminer à la rencontre de Dieu. Voilà, tout simplement.
Du Dieu de vous-même, des autres aussi.
Et des autres aussi, mais surtout à la rencontre de Dieu.
Et ce matin, donc, qu'est-ce que c'était vraiment des prémices, un prologue ?
Oui, un prologue, oui, puisque j'ai acheté la crédentiale, j'ai pris la crédentiale, donc je l'ai faite tamponner, donc oui, c'est un prologue, c'est ça.
Et des lieux ici à Toulouse que vous connaissiez avec cette identité, chemin de Saint-Jacques, pèlerinage à Saint-Jacques ?
Non, pas du tout. J'étais à la fac ici.
À l'Arsenal,
j'étais. En des temps très anciens. Donc, Saint-Sernin, je connais bien sûr, puisque je l'ai visité plusieurs fois. Mais chaque fois que je viens, je découvre quelque chose.
Bon, mais merci beaucoup. Et puis, comment on dit, Ultreya.
Ultreya, merci.
Des ponts, des églises, des hôpitaux, autant d'édifices qui, aujourd'hui comme hier, disent la réalité d'une ville halte sur les chemins de Saint-Jacques, mais qui témoignent également de la réalité d'une ville au carrefour de bien d'autres routes de pèlerinage. Quelques jours plus tard, nous rencontrons Sébastien Pénary de l'agence Chemin de Compostelle.
D'abord, Toulouse est positionnée sur un fleuve et il faut franchir ce fleuve. Donc d'abord, il y a la route, le chemin, le franchissement. Donc Toulouse peut avoir une place, une justification, parce que pour passer, pour franchir le fleuve, il n'y avait pas 50 endroits au Moyen-Âge. Et puis, il y a un fleuve, mais il y a aussi des hôpitaux qui pouvaient accueillir, soigner, restaurer des voyageurs. Et parmi les voyageurs, il y a des pèlerins de Saint-Jacques ou d'autres sanctuaires. Et puis, les pèlerins, ils sont aimantés par ce qui va leur donner de l'espoir, ce qui va les mettre en contact avec le divin. Ce sont les saints et les reliques des saints, les corps des saints, ou bien les reliques qui peuvent être constituées de toutes sortes d'objets, de restes vestimentaires, d'eau, de tout ce qu'on veut. Et donc à Toulouse, il y avait à Saint-Cernin un grand trésor de reliques qui attirait les pèlerins. Et puis on a même eu au Moyen-Âge une concurrence recherchée par les chanoines de Saint-Cernin qui, pour donner un caractère encore plus éminent à la basilique de Saint-Cernin, ont revendiqué détenir le corps de l'apôtre Jacques, ce qui les a mis en concurrence avec Compostelle. Voilà. Et donc tout ça...
Vous me dites au Moyen-Âge, mais est-ce que vous pouvez préciser? Parce que le Moyen-Âge, c'est très vaste.
Le Moyen-Âge, c'est très long. Donc on est là au 11e, 12e siècle. Et donc ça, c'était un argument de détenir le corps d'un apôtre qui pouvait asseoir une notoriété accrue du sanctuaire. Et donc entre la route, la position géographique de la ville, la possibilité d'accueillir, le nombre de corps saints ou de reliques offertes à la dévotion, ça faisait de Toulouse une place éminente de pèlerinage d'abord, et puis une étape sur des grands chemins de pèlerinage européens. On allait vers Saint-Jacques, on pouvait aller vers Saragosse, on pouvait aller vers Rocamadour, on pouvait arriver de Conques ou aller vers Conques. Voilà, on est aussi dans un isthme entre Atlantique et Méditerranée. Et donc forcément, dans tous ces voyageurs qui circulent, il y a des pèlerins. C'est une plaque tournante nécessaire.
Dans l'église Saint-Nicolas, nous retrouvons les pèlerins d'un jour et le père Guillaume Loz. Nous sommes dans l'une des chapelles, devant la fresque, ou plutôt devant la grisaille du pendu dépendu. Une grisaille, signe de la proximité de Toulouse avec le pèlerinage à Saint-Jacques.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire du pendu dépendu? C'est-à-dire que à Toulouse, alors il y a plusieurs versions, mais à Toulouse, dans le livre des miracles écrit par le pape Calixte, on dit qu'en 1090... il y a deux Allemands qui sont venus à Toulouse pour aller en pèlerinage à Saint-Jacques. Et dans l'auberge où ils s'arrêtent, voilà que l'aubergiste, en fait, va dissimuler un objet et puis va les accuser de vol. Et en fait, quand ils vont sortir de l'auberge, les gens vont accuser ces personnes d'avoir volé cet objet, cette coupe, une coupe. Et eux nient, mais ils trouvent dans leur sac la coupe que lui a planquée préalablement. Et du coup, sans forme de procès, ils vont être rapidement, on va désigner un coupable qui va être pendu. Alors la légende nous dit quelque chose d'intéressant parce qu'elle dit qu'il y a en fait un questionnement entre le fils et le père, pour savoir qui des deux sera pendu, va aller au gibet. Et le fils y va généreusement. Voilà, ça, c'est un peu la légende originelle à Toulouse. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, là à Toulouse, on ne dit pas qu'il y a un papa, il y a les parents, mais bon, les parents sont représentés. Et en fait, après, ils partent en pèlerinage à Saint-Jacques. Et puis, au retour, ils vont revenir à Toulouse pour honorer ou rendre hommage à leur fils, récupérer le corps, etc. Et voilà qu'au retour de Saint-Jacques, des jours après, on dit 36 jours, ils constatent que leur fils n'est pas mort. Et pourquoi? Il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? On dirait comme un ange. Vous voyez, il y a une petite main là. En fait, je l'ai remarqué hier. Ça fait 3 ans que je suis là, je n'avais jamais vu avant. il y a deux mains. Et ça veut dire qu'en fait, c'est Saint Jacques qui le tenait et qui fait qu'il n'est pas mort. Et au contraire, il dit, ne vous inquiétez pas, Père, je suis très bien avec Saint Jacques, je suis ravi, etc. Et donc, ils vont voir le juge en leur disant que leur fils est vivant, qu'il faut le descendre. Et une fois, il ne constate pas l'évidence, mais une fois qu'il constate cette évidence, effectivement, il va descendre leur fils, et puis il va, l'aubergiste qui les a dénoncés va prendre la place. Voilà. Le méchant avide d'argent va être puni. Voilà. Et c'est un peu une incitation aux pèlerins à la confiance en Dieu, quelles que soient les épreuves, et à ceux qui les accueillent, à bien les accueillir, à ne pas abuser des pèlerins de passage. Donc voilà, ça c'est la scène qui est décrite à Toulouse. Et en fait, cette scène est représentée un peu partout en France et en Espagne. Et en Espagne, il y a un épisode qui a été rajouté. Alors il y a plusieurs interprétations. C'est, pour ceux qui connaissent le Saint-Jacques, alors je n'arrive jamais à lire, c'est associé, il y a la cathédrale Saint-Domingo de Casalda. Voilà. Il y en a qui ont été. Et vous voyez, dans cette cathédrale, elle est particulière.
Oui, voilà.
Il y a des poules.
Oui, voilà. Voilà.
Et il y a un coq. Il y a un coq. Et en fait, ça n'a pas trop duré ici en France, mais en Espagne, la même chose s'est produite à peu près. C'était un Saint-Domingue, c'était quelqu'un qui aidait les pèlerins à passer. Et on dit que c'était cette personne qui a vraiment vécu. Il y a eu la même histoire et une personne avait été préservée et ils ont retrouvé leur fils aussi protégé, voilà, intact. Mais à ce moment-là, quand ils sont allés voir le juge, le juge qui avait condamné pour récupérer le corps était en train de faire bombance et à l'époque, ils avaient des mets, c'était plutôt de la volaille. Donc il avait un poulet sur la table qui s'apprêtait à manger. Et en fait, le juge, voyant leur remarque, mais c'est pas, en disant « c'est pas possible que votre fils soit vivant », c'est comme si le poulet qui est dans mon assiette reprenait vie et s'envolait et partait, quoi, voyez, c'est pas possible. Et ce qui se passe à ce moment-là, voilà, il y a la réanimation du poulet qui revit, qui s'en va et il est confondu. Et du coup, hein, il chante en plus. En plus, il chante.
Une grisaille du XVIe siècle, récemment redécouverte. Sébastien Pénary.
Oui, sans être spécialiste, elle est plutôt de la fin de la période médiévale, donc on est là au XVe siècle, je pense. Les spécialistes pourraient le dater mieux que moi. Elle a été en tout cas oubliée pendant quelques siècles et retrouvée à l'occasion de travaux de restauration dans la chapelle et mise à jour il y a moins de 10 ans, en tout cas, que cet ensemble un peu spectaculaire et assez sympathique a été décelé et mis à jour. Elle n'est même pas référencée, puisqu'on ne la connaissait pas encore, dans le très beau catalogue Toulouse sur les chemins de Compostelle, qui était un catalogue d'une exposition qui avait été organisée aux Jacobins en 1999, et catalogue qui continue à faire autorité par la richesse des objets qui avaient été réunis, et par la richesse des contributeurs, des universitaires, qui ont chacun apporté des articles et qui nous ont raconté l'histoire du pèlerinage, de l'intimité entre la ville et le pèlerinage de Saint-Jacques.
Donc certainement des traces encore à découvrir, qui nous attendent.
Espérons, oui. En tout cas, les archives sont toujours très volumineuses et on a besoin de jeunes médiévistes pour continuer à travailler dans les archives. On a une histoire du pèlerinage de Saint-Jacques qui s'est écrite depuis le 19e siècle, qui est profondément revisitée de nos jours par les historiens très contemporains, qui ne réenvisagent pas de la même manière cette histoire à travers son matériau. C'est-à-dire le matériau, c'est l'archéologie, c'est les archives, c'est comme ici des œuvres d'art. Et ils sont les historiens contemporains réécrivent une autre histoire du pèlerinage. Il y a la réalité historique et puis il y a le mythe qui est puissant. L'historienne Adeline Rucquois a pour usage de dire qu'un pèlerinage, pour se survivre, doit se réinventer périodiquement. Et depuis le 19e siècle et au 20e siècle, on a complètement réinventé ce pèlerinage médiéval, en inventant des routes qui n'ont pas forcément été celles des pèlerins, en retrouvant du patrimoine qui avait été oublié, et puis les marcheurs de nos jours nourrissent et continuent à perpétuer le mythe et à le réinventer, à lui donner une vie.
C'est un chemin qui marche.
C'est un chemin qui marche.
Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main?
Valérie, mais j'ai pas fait la partie Toulouse encore, donc du coup ça permet d'anticiper la découverte de cette partie-là. Mm-hmm. Puis d'ailleurs je crois que je la ferai pas puisque j'ai commencé au Puy-en-Velay, donc je crois que le chemin du Puy passe pas à Toulouse de mémoire. Hein. Je sais plus trop, donc voilà.
Ils mènent tous à Saint-Jacques.
Ils mènent tous à Saint-Jacques, effectivement. C'est ça, c'est pas tous les chemins mènent à Rome, là c'est tous les chemins mènent à Saint-Jacques de Compostelle.
Et vous l'avez fait, c'était dans une démarche de pèlerinage?
Oui, la première fois que j'ai découvert les chemins, c'était un pèlerinage chantant organisé par les commissions de musique liturgique de la province de Toulouse. Et donc le but c'était de chanter, bien évidemment, et d'aller jusqu'à Saint-Jacques, mais on a marché un petit peu, donc ça a permis de découvrir le chemin. Et l'année suivante, avec une amie, on a décidé d'en faire un petit bout. Donc on a fait depuis le Pays Basque jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, on a fait la fin de la partie française. Et puis ça nous a vraiment plu, puis on s'est dit finalement non, on va recommencer. Donc on a fait cet été, on a fait le Puy-en-Velay jusqu'à Aumont-Aubrac. Et on a prévu de continuer si possible et d'aller jusqu'à Saint-Jacques en plusieurs fois.
Qu'est-ce qui vous a plu?
Moi en premier lieu, c'est effectivement les paysages qu'on voit. Enfin, puis ça permet de se remettre en question, alors tant spirituellement que physiquement aussi, parce que c'est pas facile quand on l'a fait la première fois, donc il y a 2 ans, avec le sac sur le dos. C'est la première fois qu'on partait, on savait pas trop les étapes, si c'était suffisamment long, trop court, trop long, c'était assez difficile. Donc physiquement c'est clair qu'on se remet en question, mais donc je vous disais que ça m'a quand je l'ai découvert avec ce pèlerinage chantant il y a quelques années, moi c'est les paysages qui m'ont plu, et puis le silence qu'il y avait, même si on était nombreux à marcher, le silence qu'il y avait, et puis ça permet de se ressourcer, de se remettre en question et de réfléchir un petit peu aussi sur sa foi quand même. Voilà. Mais j'avoue que mon but premier de faire ce pélé, c'était pas et puis de faire cette marche et là du coup de reprendre le chemin depuis le début cette année, c'était pas le côté spirituel au départ, c'était juste partir avec des amis et allier plusieurs choses finalement, la découverte de la nature, l'amitié aussi, et le côté spirituel quand même un petit peu, voilà.
S'inscrire dans une démarche collective.
Exactement, oui, parce que c'est, je vais faire le chemin avec ma fille, tu veux venir avec nous? Ah ben oui, voilà, et puis après, ça c'était l'année dernière, et puis cette année, ça s'est imposé, quoi, finalement, ben oui, on le fait, oui. Et puis là, l'année prochaine, on recommence, quoi, finalement, c'est une logique, et puis, au fond, il doit quand même y avoir quelque chose qui nous permet un petit peu, quand même, d'approfondir notre foi, d'ailleurs. Ben aujourd'hui, on commence la journée dans une église, bien évidemment, parce que même si chacun fait son chemin, fait le chemin pour la raison qu'il souhaite, c'est plutôt personnel en fait, les raisons pour lesquelles on est sur le chemin. Il y a du sportif, on a une difficulté dans la vie, on a besoin de se retrouver, il y a du spirituel, voilà, il y a plein de raisons.
Il y a des quêtes multiples.
Exactement, voilà. Mais ça touche quand même. Celui qui part pour le faire juste d'une manière sportive, je pense que ça doit toucher à un moment donné, parce qu'on passe dans des endroits, la nature merveilleuse, on découvre des petites églises, des petites chapelles au coin au détour d'un chemin, après un virage, là, il doit y avoir quelque chose qui touche quand même, au fond du cœur.
Originellement destiné à l'accueil des pèlerins, dominant la Garonne, se trouve aujourd'hui l'Hôtel Dieu. Anciennement, l'hôpital Sainte-Marie de la Dorade, élevé par le moine bénédictin de la Dorade sur la rive gauche de la Garonne aux alentours de 1130. Nos pèlerins, eux aussi, y font une halte.
Les pèlerins, on a très peu d'informations là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est qu'on donnait la passade, c'est-à-dire on donnait la soupe le soir, le gîte, et puis le matin, on repartait. C'est ça la passade, en quelque sorte.
Dans le même temps, Sébastien Pénary nous l'a dit, le pont de la Dorade facilite la traversée du fleuve pour les pèlerins qui vont à Saint-Jacques. Un nouvel hôpital s'élève donc au XIIIe siècle sous le nom de Saint-Jacques du Bout du Pont, gouverné par la confrérie de Saint-Jacques. Associé à l'hôpital Sainte-Marie en 1554, il deviendra l'Hôtel Dieu Saint-Jacques.
C'est ce qui fait le diaconat et le diaconat.
Alors, la porte Miégeville, en fait, elle s'appelle Miégeville parce que c'était à l'époque la continuité de milieu de la ville. En fait, vous connaissez un peu Toulouse ou pas du tout ? En fait, le centre de la ville, c'était Esquirol. Et en fait, l'axe...
Retrouvons nos pèlerins sur le parvis de la basilique Saint-Servin.
Pâquerette, vous, ce chemin, vous l'avez déjà fait ?
Je l'ai commencé il y a 2 ans. Je ne l'ai pas achevé, mais j'ai accompli quand même la moitié. Je suis partie de chez moi, comme le pèlerin du Moyen-Âge, avec un chemin pieux. J'ai fait un chemin pieux.
Vous êtes partie seule ?
Oui, parce que, par la force des choses, du reste, parce que chaque fois que je demandais à quelqu'un, une copine, une amie, elle objectait toujours un obstacle. J'ai mal aux pieds, j'y arriverai pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Enfin, vous voyez les obstacles. Mais enfin, moi je l'ai fait parce que je suis une étoile, je suivais l'étoile.
Donc seule la rencontre peut-être de vous-même, des autres et puis du tout autre.
Je ne sais pas, parce que j'ai, en croisant des pèlerins sur le chemin, j'ai remarqué que tous marchons pour une blessure. Alors, ce n'est pas forcément pour Compostelle, mais c'est pour apporter sa souffrance malgré tout. C'est un chemin...
Pour la déposer ?
Pour la déposer, exactement. Oui. La déposer, et puis... en fait, c'est comme un soulagement. Hein. On dépose et on reçoit. Voilà. Mais j'ai bien remarqué cela. Des gens qui marchaient pour des blessures. Il y avait une jeune fille qui marchait, qui transportait l'urne funéraire des cendres de son père. C'est un peu spécial, hein, mais je trouve que c'est très dur. Et ça, c'est lourdement une croix.
Et aujourd'hui, donc, cette journée Jacquaire, est-ce que c'est un nouveau départ ? Est-ce que c'est une parenthèse ? Est-ce que c'est une suite ? Est-ce que c'est une continuité ?
Il me semble que c'est une confirmation. C'est une confirmation. C'est peut-être un aboutissement aussi. En tout cas, c'est une justification. Et puis, comment dire, une vérité. Et une joie.
Ces panneaux-là qu'on a fait, c'est pour présenter le chemin de Saint-Jacques aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne reviens pas le Moyen-Âge, tout ça. Hein,
Avant de se séparer et de recevoir la bénédiction d'envoi, les pèlerins sont accueillis par Geneviève et par Marc Foncarny, membre de l'association des Amis du chemin de Saint-Jacques en Occitanie. À Saint-Cernin, ce sont eux qui accueillent et guident les pèlerins.
Alors, donc nous sommes une association, donc les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie, ça c'est le titre exact, et on est basé à Toulouse. Et à Toulouse, parmi les actions que nous faisons, nous avons un accueil quotidien dans la basilique Saint-Cernin. Donc tous les après-midi, de 3 à 6, on accueille les pèlerins. Et bon, évidemment, l'année dernière, 2020, et puis cette année, sont des années un peu spéciales. Mais on rencontre quand même du monde, il y a des pèlerins sur le chemin. Par contre, ce qui est différent de l'habitude, c'est qu'on a très peu d'étrangers. Habituellement, on a quand même des Allemands, des Italiens, mais des Américains, des Canadiens. Et cette année, on en voit très très peu. Voilà. C'est surtout ça la différence. Et donc, en termes de fréquentation aussi, on a une baisse assez sensible. Hein. Alors l'année dernière est terrible, et cette année encore assez sensible.
Alors depuis ce matin, nous allons de lieu en lieu, des lieux qui marquent, qui donnent la visibilité de ce pèlerinage vers Saint-Jacques ici à Toulouse. On les a peut-être redécouverts aujourd'hui.
Oui, mais on a aussi redécouvert le pèlerinage, parce que dans le temps où le pèlerinage est devenu très très léger, je vais dire surtout en France, parce qu'en Espagne il n'a jamais disparu, c'est sûr que la trace de Saint-Jacques était moins parlante pour nous. Et elle redevient parlante avec les pèlerins de Saint-Jacques qui passent maintenant.
Vous-même, vous avez fait le chemin ?
Bien sûr, oui. Alors, on l'a fait plusieurs fois, mais on l'a fait une fois de Toulouse jusqu'à Saint-Jacques d'une seule traite. Oui.
Et aujourd'hui, votre présence ici, c'est une façon de rendre, d'être, vous êtes dans une autre position, celle d'accueil, de transmission, de transmettre à votre tour.
Alors, on reste pèlerin parce que très souvent, quand on est allé à Saint-Jacques, on a le désir d'y retourner et de marcher encore sur ces chemins qui ressemblent un petit peu, la marche sur ce chemin, à une retraite spirituelle. Voilà. Mais notre association a aussi, aide aussi les pèlerins à préparer leur pèlerinage, à se renseigner. On les accueille aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Il y a l'aspect hospitalité aussi dans nos gîtes.
Dépositaire d'une mémoire et d'une histoire commune que nous avons fait nôtre ce jour-là, tous ces lieux et monuments découverts, redécouverts au cours de cette journée Jacquaire nous ont rassemblés, réunis, et c'est peut-être là l'un des messages de Saint-Jacques. Sébastien Pénary.
Ben oui, c'est un message de rassemblement et d'unité. Le pape en 82 dit « Europe, souviens-toi tes racines chrétiennes ». Le Conseil de l'Europe en 89 ou en 87-89 nous dit « Vous appartenez à une histoire commune, à une civilisation commune. Par exemple, c'est le pèlerinage qui a permis le brassage des Européens entre eux, donc vous êtes tous des cousins. Et puis c'est l'UNESCO qui, par les inscriptions au patrimoine mondial du chemin en Espagne et du chemin en France, nous dit aussi vous êtes les gardiens et les dépositaires d'un patrimoine commun de l'humanité qui est un pèlerinage et qui a été aussi un moment de civilisation, un lieu de brassage, de rencontre, de création. Voilà.